Well, it's Long John.
Long John.
He's long gone.
Long gone.
Hey, Long. What the roses say,
what the roses say,
I could been at home,
I could been at home,
and the roses say.
Bonjour et bienvenue à Histoire de s'en jaser. Cette semaine, moi et Maïté, moi étant Rose Tremblay-Fontaine, là, vous allez commencer à me connaître. Je sais pas pourquoi je sens le besoin de me présenter à chaque fois. On reçoit Hugo Saint-Laurent, Peterson Saint-Laurent?
Hugo Saint-Laurent.
Hugo Saint-Laurent. À notre table, et il vient nous parler de trois petits points.
Je viens vous parler de mon travail de séminaire que j'ai fait à la session d'automne dernière qui parle des mouvements anti-asiatiques en Colombie-Britannique.
Gros sujet, comme on dit. Mais avant de parler de ce beau sujet, on va commencer par le commencement. Pourquoi l'histoire, Hugo?
Bien, en fait, je dirais que ma passion pour l'histoire s'est certainement développée en secondaire 5 quand j'ai eu mon cours d'histoire du 20e siècle et mon prof, dont je me rappelle plus le nom.
Et... C'est une constante du temps-ci. Les gens sont comme « Charlotte à ce prof, il était incroyable, je ne sais plus ton nom.
» Ça fait quand même longtemps. Donc,
il était à quelle école?
Je pense qu'il s'appelait Marc, à l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. Puis c'était un excellent professeur, puis il m'a vraiment donné le goût de continuer là-dedans. Puis finalement, je crois que ce qui m'a poussé à venir étudier l'histoire à l'université, c'est plutôt qu'une passion des événements historiques, plus de... J'ai toujours été fasciné par la façon dont les gens vivaient à d'autres époques, qui n'est pas la même que moi et que nous, mais qui, en fait, on se la représente selon notre façon de vivre ici. Donc voilà.
C'est tellement profond. Il n'y a pas eu de Percy Jackson. Ben, il fallait que je le dise. Tu sais, c'est une constante, ça aussi, je pense, dans nos épisodes.
Oui, Percy Jackson revient à chaque semaine, même si ça...
Ça n'a pas rapport.
Ça n'a pas rapport. Mais oui, je pense que c'est la réponse la plus profonde qu'on a eue sur pourquoi étudier en histoire. Ouais. On a eu des gens qui étaient vraiment là pour l'argent, on a eu des gens qui étaient là pour tout plein de raisons, mais...
Jamais autant.
Aussi profonde. Bravo.
Des gens qui étaient là pour l'argent, donc ils n'ont vraiment pas été au bon endroit.
On salue Alexandre Prince, qui nous écoute probablement.
Génial.
Puis, donc là, tu as commencé à faire tes études au baccalauréat. Qu'est-ce qui t'a amené au deuxième cycle, finalement? J'imagine que tu as aimé ton bac.
Oui, j'ai aimé mon bac en général. Par contre, ce qui m'a poussé à aller à la maîtrise, c'est en fait de pouvoir mener à bien un projet qui était propre à moi, de pouvoir aller au bout d'un sujet qui devient un peu mon sujet et que j'en deviens un peu le spécialiste. Ça, je trouvais que c'était... très, très, très intéressant dans un cheminement. Parce que, tu sais, tu finis ton bac, puis en fait, t'as acquis plein de connaissances, mais en fait, t'es pas spécialiste de rien. Puis, tu sais, t'as acquis une méthode, mais cette méthode-là, c'est bien de pouvoir l'appliquer et de la perfectionner aussi.
Donc, la passer au test un peu, justement.
Ouais, exactement.
Tout à fait. Puis, justement, en parlant du deuxième cycle, ben ça va être le fun parce que, comme tu disais, ben tu vas pouvoir analyser ton sujet avec... finalement, ton histoire à toi. Là. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
Oui, absolument.
Tout ton bagage va aller dans ton analyse du sujet.
Oui, ben en fait, le choix de mon sujet de maîtrise, qui est les représentations des communautés racisées de la ville de Québec à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, c'est un choix de sujet qui a été beaucoup influencé par mes propres intérêts. J'ai tout le temps été intéressé par les groupes marginaux, les gens qui, disons, l'ont pas eu facile. Donc... Après avoir discuté avec mon directeur de recherche des possibles sujets que j'aurais pu choisir, quand il m'a proposé ça, ça a été... j'ai tout de suite su que ça allait être un parfait match pour moi, dans le fond.
Mm-hmm. Puis j'imagine que ça a aussi influencé le sujet de ton séminaire, celui dont tu veux nous parler aujourd'hui.
Oui, exactement. Comme les communautés que je vais étudier pour la ville de Québec sont les Juifs, les Chinois, les Noirs et les Autochtones, et particulièrement les Wendat, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité d'aller étudier l'histoire d'un de ces groupes-là, mais ailleurs au pays, surtout que, dans le fond, l'histoire des Chinois et des Asiatiques au Canada démarre dans l'Ouest, en Colombie-Britannique. Donc
là, avec un trois petits points de suspense, quel est ton sujet pour ce dit séminaire?
On l'a dit au début, il n'y a pas de suspense!
OK. Excusez. Non, mais c'est parce que si moi, je m'en rappelle plus, puis j'ai fait les questions avec Rose, peut-être que les gens à la maison se demandent, mais quel est le sujet d'Hugo? Alors, Hugo, peux-tu un peu nous répéter ce que tu as fait? C'est parce que ça a déjà été dit. Et pourquoi tu as choisi ça? Est-ce qu'il y a déjà eu un intérêt historien pour ce sujet?
Ben, en fait, je vais tout simplement lire mon titre de travail. Je pense que ça va être très, très, très évocateur. Donc, ça s'intitule ainsi « La discrimination ethnique envers les immigrants asiatiques de Colombie-Britannique, un phénomène violent entre enjeux économiques et idéologie raciale, 1858-1923 ». Donc, peux-tu répéter la question, en fait?
Ben, on peut recommencer tout ce bout-là, je pense.
Ben non, on peut le joindre. En fait, ce que Maïté t'avait posé comme seconde question après qu'est-ce que tu viens de nous présenter, c'était est-ce qu'il y a déjà eu d'autres personnes en histoire qui se sont intéressées à un sujet similaire?
Oui, absolument. En fait, la présence asiatique et les mouvements anti-asiatiques en Colombie-Britannique ont été amplement étudiés par les historiens et historiennes et les professionnels de d'autres disciplines en histoire, en sciences sociales et sciences humaines. Je peux faire peut-être un petit portrait de ce qui s'est déjà fait avant. Là. Dans les années 1960-1970, il y a beaucoup de chercheurs de tradition marxiste qui ont vraiment étudié ces phénomènes-là d'un point de vue économique et surtout d'un point de vue des mouvements ouvriers en Colombie-Britannique qui ont été, il faut le dire, probablement les plus grands, ceux qui ont le plus mis de l'avant l'anti-asiatisme qui s'est ensuite propagé dans le reste de la population, mais je vais en parler plus tard. Donc, c'est ça, il y a vraiment eu ces chercheurs-là qui, en fait, étudiaient ça d'une façon à prouver que le désir d'expulser et d'exclure les Asiatiques de Colombie-Britannique, en fait, était crucial aux intérêts économiques des travailleurs canadiens. Par la suite, il y a Peter Ward qui, lui, a plus regardé ça d'un côté de l'idéologie raciale. Fait que pour lui, plutôt que des intérêts économiques qui auraient motivé ce racisme-là, ce serait en fait plus la psychologie raciale qui est à peu près intrinsèque là, à nos sociétés nord-américaines blanches.
C'est quoi la psychologie raciale, mettons?
Ben, en fait, ce qui vient avec l'idée de la blanchitude, ce qu'on pourrait nommer le whiteness, de la supériorité blanche par rapport aux autres races, dans le fond.
La culture blanche.
La culture blanche, exactement. Donc, pour lui, ce serait ça la raison principale qui aurait poussé les Canadiens de Colombie-Britannique à être très, très, très racistes envers les Asiatiques, plutôt que des questions économiques. Et par la suite, il y a des chercheurs et des chercheuses tels que Patricia Roy, Gillian Kreese et David Guter qui, eux, ont cherché à mélanger un peu ces deux aspects-là en disant qu'il y avait à la fois des facteurs économiques, mais également des facteurs idéologiques et que les deux s'alimentaient, si on veut. Et pour reprendre une citation de Patricia Roy, ce racisme-là s'est progressivement étendu des milieux ouvriers vers le reste de la population. Et là, c'est là que la citation commence pour devenir « a broadly held fear that became part of the provincial identity ». Et par la suite, ben, y a d'autres chercheurs qui ont étudié ces questions-là sur d'autres aspects. Là, il y a Cornel Chang et Eric Olly, entre autres, qui ont étudié les mouvements asiatiques, non seulement en Colombie-Britannique, mais dans tout l'anglosphère pacifique, là, fait qu'on parle de la côte ouest des États-Unis, l'Australie et ces régions-là. Puis pour eux, c'est vraiment un mouvement qui participe à une dynamique là, qui se propage de place en place parce que les migrants asiatiques se sont vraiment promenés dans toutes ces places-là pour le travail. Et donc, c'est pas quelque chose qui est propre au Canada, mais quelque chose qui est aussi influencé par ce qui se passait ailleurs en même temps.
Par un phénomène international.
Exactement.
Puis... tu as parlé de plusieurs différents types d'approches. Je me demandais si ça avait déjà été, parce que dans ton titre, tu parlais de la violence. Est-ce que la violence a déjà été un angle d'attaque pour d'autres historiens pour ce phénomène-là, justement, de la peur puis des mouvements anti-asiatiques?
La violence en tant que telle, pas vraiment. Là, c'était le thème du séminaire, donc il fallait l'intégrer dans notre travail. Donc c'est pour ça que j'ai...
Ah ouais! Parce qu'il faut dire que Rose et moi avons aussi fait ce séminaire, donc on a fait un... J'ai fait peut-être une réaction un peu sarcastique.
On est tous des experts de la violence autour de la table.
Absolument.
Maintenant, oui.
Tous des êtres violents.
Peut-être. Qui sait? Mais on parlait de violence et tout. Est-ce que tu peux définir le concept parce qu'on a tous travaillé sur la violence, mais on y a un peu travaillé de façon différente, finalement. Fait que si ton sujet n'a pas été abordé sous cet aspect-là, toi, comment tu l'as abordé?
Oui, dans les études sur la violence, on pourrait dire qu'il y a comme deux grandes familles de pensées. L'approche qui pourrait être dite minimaliste, telle que proposée par, mettons, Peter Spierenberg, qui limite la violence à des actes physiques qui portent atteinte à l'intégrité physique d'une personne, des actes intentionnels. Et ça, c'est une définition très, très, très minimaliste, comme le nom le dit, là. Ça laisse pas place à beaucoup de... à beaucoup de comportements qui peuvent être violents, perçus comme violents par les gens qui les reçoivent. Et donc, ça limite vraiment ça à une attaque physique, un meurtre, ou du moment qu'il y a un acte physique. Donc, ça l'écarte tout ce qui est violence psychologique. Le racisme ne rentrerait pas nécessairement là-dedans s'il n'y a pas des attaques en tant que telles. Donc, moi, j'ai plutôt opté pour une approche qui est plus inclusive et qui, en fait... va regrouper toutes ces formes de violence-là. Là. Donc, la violence physique, la violence collective. Quand je parle de violence collective, mettons des émeutes. Et là, je vais y revenir tantôt, mais il y a eu des émeutes anti-asiatiques importantes à Vancouver. Sinon, on peut parler de violence économique, des stratégies d'exclusion, et un racisme qui est plus systémique, donc qui se traduit par des lois discriminatoires et un racisme institutionnalisé. Donc, j'ai décidé de tout regrouper ça. Pour moi, c'était la meilleure façon, en fait, de parler de discrimination raciale et d'inclure la discrimination raciale comme une forme de violence.
Okay. Puis, tu as parlé d'émeute. Voulais-tu commencer à développer un petit peu? Je sais que c'était une partie comme centrale dans ton... Oui. Dans l'élaboration, finalement, de ton travail. Là. Fait que ça, c'est le meilleur moment pour en parler.
Oui, exactement. C'est quand j'ai commencé mes recherches, en fait, la première chose qui m'est apparue, c'est les émeutes de Vancouver de 1907, qui ont été là, des émeutes assez, assez courtes, mais assez violentes. En fait, c'est un regroupement de travailleurs du mouvement ouvrier, des organisations syndicales qui se sont regroupés pour, en fait, demander que les Asiatiques soient tout simplement exclus de la province et du pays. Donc, ils se sont rassemblés à Vancouver et il s'en est suivi beaucoup de grabuges dans les quartiers japonais et chinois de la ville qui ont mené à des vitres cassées. En fait, toutes les vitres du quartier chinois ont été cassées sans exception, presque. Il n'y a pas vraiment eu de blessés ou de morts en tant que tels, mais ça a créé une réaction défensive de la part des Chinois et des Japonais de ces quartiers-là qui, eux, ont voulu sortir ces gens-là de leur quartier. Et finalement, ça a pris plusieurs heures aux forces policières là, pour pouvoir mettre fin aux altercations. Donc, cet événement-là a été un peu le point de départ de ma réflexion. Et comme cet événement-là, les émeutes de Vancouver, s'inscrivent dans d'autres émeutes qui avaient lieu la même année, en fait, à San Francisco, en Californie, et à Bellingham, dans l'État de Washington. Et les émeutes de Bellingham sont à peu près 4 jours avant les émeutes de septembre 1907 de Vancouver. Donc, c'était un peu le point de départ de ma réflexion, comment ces mouvements-là s'inscrivent dans un contexte plus global aussi. J'ai laissé faire un peu la partie Australie, là, comme j'ai parlé tantôt, parce que je voulais pas trop me perdre un peu dans un travail qui avait une limite de mots, là, mais de montrer un peu que ces mouvements-là s'inscrivent là, dans de quoi de plus gros que juste l'arrivée des Chinois au Canada, en fait.
Mais la question que je me posais, ces émeutes-là canadiennes, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui y participait, beaucoup qui étaient anti-communauté asiatique? C'était-tu 20 personnes? C'était-tu 200?
Oui, en fait, le rassemblement, là, au début, il y avait environ 10 000 personnes qui se sont rassemblées avec des banderoles qui disaient des choses telles que « Stand for a white Canada », « A white Canada and no cheap Asiatic labor ». Donc, c'était une émeute, un rassemblement, en fait, un rassemblement avant d'être une émeute, c'était une manifestation qui était vraiment avec le but précis de forcer le gouvernement à mettre des lois pour exclure les Chinois, les Japonais et les ressortissants indiens aussi du pays, en fait.
Sympathique, comme on dit.
Ben oui, à tous les jours.
Sur cette note positive, est-ce que, en fait, tu as dit que c'est la première chose que tu as remarqué, mais par la suite, quand tu as écrit ton séminaire, c'est quoi le contexte où tu voyais l'arrivée, finalement, des premiers membres de ces communautés asiatiques-là?
Oui, c'était une bonne question. En fait, les premiers Asiatiques à arriver en Amérique du Nord sont des Chinois qui sont arrivés en Californie pour ce qu'on peut parler, on peut appeler la ruée vers l'or. Les premiers sont arrivés en 1848 pour aller travailler dans la mine de... Deux petites secondes. Dans la mine de Sutter's Mill en Californie. Pour les Chinois qui venaient tous de la région du Guangdong et de Hong Kong, en Chine, c'était une façon pour eux qui vivaient dans une région très très pauvre de la Chine de faire beaucoup d'argent parce que l'argent qu'ils faisaient ici était de loin supérieur à ce qu'ils pouvaient faire à la maison. Donc c'était une façon pour eux de faire de l'argent pour la renvoyer à leur famille et peut-être retourner s'établir là-bas avec une petite fortune. Donc les premiers travailleurs chinois qui sont arrivés en Amérique du Nord sont arrivés pour cette raison-là en Californie. Et quand il y a eu, en 1858, la ruée vers l'or s'est déplacée vers le Canada avec la découverte d'or dans la vallée de la rivière Fraser, le fleuve Fraser, en fait. Et ces Chinois-là ont suivi, certains de ces Chinois-là ont suivi les travailleurs, les mineurs qui venaient de la Californie pour venir exploiter ces gisements-là orifères au Canada. Donc, les premiers Chinois...
Ouais, oui. Vas-y, excuse-moi, je voulais couper, mais... Ben, je voulais pas te couper, Rose, mais je voulais quand même. J'ai une question parce que ça vient de me flasher, puis je sais pas si tu vas avoir la réponse, mais la Colombie-Britannique, elle a rejoint le Canada en quand, savez-vous?
C'est
dans ce coin-là, parce que c'est à cause de la ruée vers l'or, non, qu'on voulait absolument l'annexer ou quelque chose de même?
C'est en 1870 ou 71, deux petites secondes.
Merci de patienter quelques temps.
1871, ouais, exactement. Et...
Mais il me semble qu'on avait comme une raison pour... Ben, parce que c'est à part les... le cœur du premier Canada, là, genre...
Ben, moi, je pensais que c'était juste pour aller de l'autre côté.
Non, mais il me semble que... C'est parce qu'au début, il y avait, les quatre premières provinces, c'est Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, puis Nouveau-Brunswick. Puis après, il me semble que la cinquième, c'est la Colombie-Britannique. Puis c'est justement parce qu'on voulait empêcher les États-Unis de... prendre la Colombie-Britannique.
Il y a ça, puis il y a aussi que les gens qui vivaient là-bas voulaient le gouvernement responsable. Mm-hmm. Il y avait deux colonies en Colombie-Britannique. Là, dans la Colombie-Britannique actuelle, il y avait la première colonie de Victoria sur l'île de Vancouver. Puis quand il y a eu la ruée vers l'or, ils ont créé la nouvelle colonie de Colombie-Britannique pour que l'Empire britannique, en fait, s'empare du territoire comme colonie.
Okay. Puis là, il y avait toutes les affaires après ça avec le chemin de fer, mais ça, on va en reparler.
Oui, ça, on va en reparler tantôt.
OK, excuse-moi, c'était juste ça que je voulais savoir. Je voulais savoir, on était où dans l'histoire plus générale du Canada. Mais donc, les premiers Chinois sont arrivés pour la ruée vers l'or.
Ouais.
Ils sont montés avec les mineurs américains vers la Colombie-Britannique et on était rendus là. Donc, je te recède la parole sans te couper pour la suite.
Oui, exactement. Donc, c'est ça, ces premiers Chinois-là qui sont arrivés ont suivi le mouvement vers la ruée vers l'or, sont arrivés dans un environnement où il y avait énormément d'exploitation de gisements, donc il y en avait assez pour qu'ils ne dérangent pas trop les colons blancs. Donc, souvent, ils allaient exploiter des gisements abandonnés par les colons blancs qui ne voulaient plus les exploiter, et ça leur permettait de faire un peu leur petite affaire sans trop déranger, jusqu'à temps qu'il y ait comme... un peu la fin de la ruée vers l'or, que ça s'épuise et que là, ça se transfère un peu vers les mines de charbon et que là, les Chinois commencent à rentrer un peu en concurrence avec les travailleurs blancs. Et c'est là que, dans le fond, les sentiments anti-asiatiques se sont plus développés.
Mais là, moi, j'ai une question, c'est à moi de te couper. Puis j'ai pas la réponse moi-même, là, je la lance comme ça, mais c'est quand qu'il y a eu une privatisation ou que le gouvernement s'est accaparé des ressources naturelles minières. Parce que, à un moment donné, il me semble, dans la propriété foncière, du moins au Québec, ça appartenait comme à personne ou c'était dans une... Ouais. Tu sais, c'était comme personne ne savait trop, fait que tout le monde pouvait techniquement le prendre, tu sais. Donc, ça me fait poser la question parce que ces immigrants chinois-là, est-ce qu'ils travaillaient à leur compte ou ils travaillaient pour quelqu'un ou ils travaillaient comme un peu, entre parenthèses, au noir?
Certains Chinois exploitaient pour eux les gisements, comme je disais, qui étaient abandonnés. Certains travaillaient pour des patrons. Il y avait des marchands chinois qui sont venus aussi et qui, eux, avaient leur mine. Sinon, ils travaillaient pour des patrons blancs.
OK.
Ouais. Puis les mines étaient exploitées par des prospecteurs.
Donc, dans le fond, ce qui a créé vraiment le premier comme sentiment anti-asiatique, c'est le fait qu'il y avait de moins en moins de travail, mais quand même beaucoup de travailleurs asiatiques, puis particulièrement chinois, en Colombie-Britannique. Oui. Donc là, ben, c'était comme un peu une crise, puis c'est le classique, ils viennent voler nos jobs, là.
Oui, exactement. Les gros arguments, c'était qu'eux, ils acceptaient de travailler pour moins cher, qu'ils travaillaient très, très fort parce qu'eux, ils étaient venus pour travailler puis repartir. Et que pour les travailleurs blancs qui avaient un meilleur salaire et qui travaillaient peut-être des moins longues journées, ça devenait beaucoup moins avantageux pour les employeurs d'engager ces travailleurs-là. Donc, les travailleurs blancs se sentaient menacés. Sauf que là, tu dis que les premiers sentiments asiatiques se sont développés là, mais en fait, il y a quand même eu des sentiments asiatiques qui se sont transportés de la Californie, quand ces gens-là sont arrivés au Canada, parce qu'en Californie, dès 1850, en fait, l'anti-asiatisme était extrêmement virulent.
OK. Fait que, puis, d'ailleurs, je me demandais par rapport à ça, par rapport à la Californie, c'est quoi qui s'est passé? Comme pourquoi on le voyait? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons, finalement, qu'on voyait au Canada? Ouh, je vais recommencer cette question-là. Je savais pas, j'ai eu de la misère à la formuler. Donc, je vais prendre une petite pause. Je
me demandais... Une grande respiration.
Je me demandais par rapport à la Californie. Parce que là, on a parlé justement du Canada, que une des raisons pour lesquelles il y avait un sentiment anti-asiatique, c'est par peur de ne pas avoir d'emploi au profit de ces personnes-là. Aux États-Unis puis en Californie, quand les premiers migrants chinois sont arrivés, entre autres, pourquoi on les a tout de suite vus comme un « danger », entre guillemets? Pourquoi on a eu comme la... je sais pas comment ça s'appelle, mais la peur de ces gens-là, automatiquement?
Oui, ben c'est un peu pour les mêmes raisons, en fait. Là, c'est directement la concurrence qu'ils apportaient. En fait, ils s'ajoutaient là, aux afro-descendants, aux Mexicains et aux Autochtones, qui étaient aussi des groupes en Californie qui étaient présents et qui étaient aussi vus comme inférieurs, évidemment. Mais les Chinois ont vraiment subi ce racisme-là peut-être de façon plus intense par leur caractère de travailleur passager, en fait. Ce qu'on pourrait aussi appeler le « sojourner », qui est le terme qui est beaucoup utilisé dans les études. J'ai jamais vraiment trouvé comment traduire ce terme-là. Je dirais peut-être un « séjournant », quelqu'un qui est là de façon temporaire, quelqu'un qui ne compte pas nécessairement s'établir sur place, qui n'a pas vraiment l'intention de contribuer à la richesse de la colonie, en fait. Donc, il y avait cet aspect-là qui rentrait beaucoup en compte.
OK. Puis, en Californie, comment ça s'est un peu présenté, cette peur-là, mettons? Est-ce qu'il y a eu des façons pour les populations blanches de demeurer majoritaires puis de demeurer comme en pouvoir ou en contrôle de la situation?
Tu veux-tu parler un peu comme de ségrégation raciale?
Ben oui, mais mettons, je me dis... Si les Blancs en Californie ont peur que des Asiatiques arrivent sur le territoire, qu'est-ce qu'ils font pour soit empêcher les Asiatiques de venir sur le territoire ou s'assurer de rester majoritaire autant en termes de nombre de personnes que de majoritaire en politique, là, finalement? Fait que je me dis, c'est quoi les politiques? Il y a sûrement eu quelque chose?
Comme je disais, ils sont arrivés en 1848. Dès 1849, les journaux font état d'actes de violence physique, là, donc c'est déjà bien établi. À compter de 1850, ils vont commencer à mettre des taxes discriminatoires qui s'attaquent directement aux Chinois comme pour pouvoir travailler, exploiter une mine, travailler dans la mine, mais qui sont juste payés par les travailleurs chinois, en fait. Puis en 1882, finalement, toutes ces pressions-là vont mener les États-Unis à adopter la loi d'exclusion des Chinois, qui, en fait, met un terme à peu près définitif à l'immigration chinoise aux États-Unis, puis qui va être reconduite à chaque 10 ans, jusqu'en 1902, je crois.
Puis l'immigration chinoise était-elle uniquement masculine?
Ça, c'est une très, très bonne question. En effet, les Chinois qui traversaient l'océan pour venir travailler dans les contrées d'Amérique du Nord, ne traversaient pas avec leur famille.
OK.
Le voyage était déjà assez cher, c'était des gens pauvres. Souvent, ils devaient s'endetter envers un patron qui le faisait traverser. Donc, ils n'avaient pas les moyens d'emmener leur famille. De toute façon, comme j'ai dit tantôt, ils ne comptaient pas nécessairement rester et s'établir. Donc, le but était de faire assez d'argent pour en envoyer à la famille et de retourner pour bien faire vivre la famille. Donc, non, il y avait très, très peu de femmes chinoises qui ont traversé. Ce qui est devenu un argument aussi pour les Blancs de dire que, en fait, les Chinois n'ont pas de femmes, donc ils vont chercher à se marier avec nos femmes blanches et les pervertir. Donc, ça, c'est aussi un argument qui entre en compte.
Puis, tu veux-tu dire quelque chose, Maïté?
Non, non, vas-y, j'étais comme juste abasourdie, puis j'avais oublié qu'il fallait que je pose moi-même des questions sur le sujet.
Mais c'est toujours un excellent argument, tu sais, de dire que les femmes sont pas capables de décider par elles-mêmes.
Ben, qu'elles veulent bien marier. Entendu,
puis voyons! C'est vrai qu'on le sait pas, hein, on a tellement besoin d'être guidé par les hommes.
Ben, on a besoin de la lumière.
Je vais y revenir plus tard, mais il y a énormément de cas dans mon sujet, dans ce que je vais aborder aujourd'hui, qui utilisent les femmes pour discriminer ensuite de façon plus intense les Asiatiques.
Ah, je te vole-tu le punch quand je parle du vidéo que tu nous as montré? Tu sais, la vidéo avec la police?
Ouais, cette vidéo-là, c'est très intéressant. C'est une vidéo qui a été tournée en 1904 en Californie, où on voit des femmes enseignantes qui enseignent à des Chinois, et là, les Chinois qui les ramènent dans leur repère où il y a du jeu et la consommation d'opium, et qui pervertissent totalement ces femmes-là, et finalement, la police arrive et démantèle toute l'opération. Mais oui, c'est très, très, très représentatif, en fait, des stéréotypes qui étaient associés aux Chinois dans ce temps-là.
Puis, il faut souligner que c'était pas des acteurs d'origine chinoise.
Oui, absolument, là, c'est clairement ce qu'on pourrait appeler un « yellow face », là.
Ben, on pourrait le mettre en annexe.
Oui, tout à fait. Oui. J'avais déjà pensé mettre cette vidéo en annexe. C'est très choquant, la vidéo. Pour revenir au sujet initial, parce qu'on ne veut pas que voler toutes tes punches pour...
Ouais, excusez, cela, il fallait comme je l'ai dit.
Il n'y a pas de problème.
Mais là, on a parlé de la Californie, justement, du fait que, bon, on a vu une détérioration, puis du traitement des Chinois en Californie. Puis j'imagine que ça a été la même chose aussi au Canada. On en a parlé un peu tantôt du fait que quand les Chinois sont arrivés, initialement, c'était pas trop pire, il y avait un sentiment anti-asiatique, mais étant donné qu'il y avait beaucoup d'emplois, c'était pas tellement... Tu sais, c'était pas le pire que ça allait devenir.
Oui, exactement. Ils étaient tolérés, puis surtout, les patrons les accueillaient avec grande joie parce que c'était des travailleurs qui leur permettaient de faire de l'argent, au final. Sauf que vers 1865, comme je disais, la ruée vers l'or s'épuise. La colonie rentre dans une grosse période de récession économique. La présence chinoise est de plus en plus perçue comme une menace à partir de ce moment-là. Ils deviennent une compétition à éliminer et sont souvent relégués à des emplois plus subalternes dans les mines. On ne leur permettra plus de descendre dans les mines. Ils vont devenir comme les cooks, les cuisiniers. Ils vont être ceux qui lavent le linge, des affaires comme ça. Ceux qui vont chercher le bois pour la mine, pour faire brûler.
Mais donc, c'est pas plus dangereux d'être dans la mine que d'aller chercher du bois?
Oui, mais c'est les emplois qui rapportaient le plus.
Ah, OK.
D'ailleurs, en 1867, il y a la Vancouver Coal Mining and Land Company qui employait beaucoup de main-d'œuvre chinoise à bon marché. Les Blancs ont déclenché une grève et ont obtenu gain de cause. Là. En fait, ils ont obtenu que les Chinois puissent plus descendre dans les mines. Donc, c'est ça. À partir de la moitié des années 1860, on commence vraiment à voir... Là,
une détérioration.
Pas une détérioration, mais une
détérioration, détériorisation.
Je pense pas que le micro a capté tout ce
mais
que
ça m'a fait plaisir de le répéter fort.
Non, mais je dirais plus peut-être une augmentation de la virulence des sentiments anti-asiatiques en Colombie-Britannique. Puis là, le Canada devient un pays en 1867.
Donc, j'imagine que ça amène une légifération sur tout ça? Ou...
Non, parce que la Colombie-Britannique n'est pas encore une province. Ah, elle reste une colonie britannique. Et tant que c'est une colonie britannique, le droit britannique est respecté. Tous les hommes sont égaux. Ils n'ont pas le droit de mettre des lois discriminatoires en place. C'est pour ça que quand la province rentre dans la Confédération en 1871... avec le gouvernement responsable, là, le gouvernement commence à dire, là, on va pouvoir légiférer contre eux.
C'est quoi que le gouvernement canadien a fait légalement pour gérer la situation ou peut-être l'engouement de cette vague anti-asiatique-là?
Le gouvernement canadien, en fait, a agi au départ comme rempart aux ambitions de la Colombie-Britannique de mettre des lois en place.
OK, fait qu'ils ont appuyé la Colombie-Britannique?
Non, ils ont appuyé la présence asiatique parce que le gouvernement canadien avait un gros projet qui est celui du chemin de fer et qui savait qu'il allait avoir besoin de main-d'œuvre chinoise parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre blanche pour parvenir à mener ce projet-là à terme. Donc, il voulait utiliser cette main-d'œuvre chinoise-là en s'inspirant de ce qui s'était passé aux États-Unis parce que le chemin de fer a été beaucoup construit par des travailleurs chinois qui, encore une fois, occupaient des emplois moins bien payés que les Blancs, comme ça s'était fait dans les mines. Donc, le gouvernement, tant que son chemin de fer n'est pas construit, ne va pas accepter qu'on légifère contre les Chinois parce qu'il en a besoin.
Puis, c'est une question un peu, parce que, comme on dirait que, en tout cas, dans la culture québécoise, c'est toujours comme, on le sait que c'est des Chinois qui ont construit les chemins de fer au Canada, comme toute l'histoire autour du pâté chinois, puis toutes ces affaires-là. J'allais dire le pâté chinois, mais c'est sûr qu'on n'avait pas eu de pâté chinois à un moment donné dans la conversation, le chemin de fer s'en venait.
Mais ça a-tu vraiment existé, le pâté chinois? Mais c'est quoi?
Ben, ça existe, le pâté chinois, Maïté! Moi, j'en ai déjà mangé!
Non, mais moi aussi! Mais pourquoi?
Ben, moi, je pense... Mais c'est juste... Je sais pas si c'était exactement ça qui était servi sur le chemin de fer, là, sur le... Mais moi, j'ai l'impression que c'est juste que c'est de la bouffe qui est facile à faire, puis que tu peux faire en grande quantité.
J'ai l'impression que si ça allait exister... Ben, je sais pas rencontrer ça dans mes recherches du tout, là, mais si ça allait exister, comme Rose a dit, c'est probablement parce que c'était des aliments comme, qui coûtaient pas cher, fait qu'on leur faisait une bouillie, puis on leur donnait, là.
C'est comme le hot chicken. Saviez-vous que c'est un plat de Montréal, le hot chicken?
Je m'en rappelle plus pourquoi, mais...
Mais c'est juste... J'avais parlé avec des collègues canadiens anglais, je savais pas c'était quoi, le hot chicken. Mais c'est de la bouffe, comme, de crise économique à Montréal. Évidemment, c'est facile. C'est du pain frit avec du poulet puis de la sauce.
Ah, mais moi, je trouve ça tellement dégueulasse, là. Tu sais, quand ton pain devient mouillé, là. Je sais qu'il y a des fans.
Je mange mon hot chicken sans pain.
Okay. Fait que tu manges juste du poulet dans ça.
Absolument. Avec des petits pois.
Avec des petits pois.
Ben oui.
Moi, je suis pas une fan des petits pois, par exemple. Mais.
Parce que c'est vrai que le pain, quand il
devient mouillé, c'est dégueulasse. Tu peux rajouter de la mayo, là. Il y a des gens qui rajoutent de la mayo avec.
Moi, je mets de la mayo.
C'est dégueulasse. C'est comme mouillé et gras.
Ben, c'est ce que tu veux quand t'es en crise économique à Montréal.
Bon.
Sur ce, OK, le
pâté chinois... Répondez-nous si vous êtes team pain mouillé ou pas.
Ouais.
J'aimerais ça
qu'on ait au moins un commentaire, s'il vous plaît. mais là, je voulais vraiment revenir à ma question qui était...
pâté chinois.
Non, excuse-moi. On a toujours su que, finalement, le chemin de fer avait été construit par des Chinois, ou en tout cas, c'est ça qu'on a toujours dit. Je me demandais s'il y avait d'autres communautés racisées qui avaient travaillé sur le chemin de fer. Comme des autochtones,
Très certainement quelques autochtones, mais à ma connaissance, les Chinois ont vraiment été le groupe racisé le plus présent. Il y avait des travailleurs blancs aussi, beaucoup. Mais comme je dis, pas en quantité suffisante pour mener à bien
le projet.
Et d'ailleurs, ce projet-là de chemin de fer est ce qui a entraîné l'étalement de la présence chinoise dans le pays. Parce que les Chinois ont commencé à s'établir un peu partout, à utiliser le chemin de fer pour venir vers l'Est. C'est là que les premiers Chinois sont arrivés à Montréal et à Québec. Donc, à la suite, là, dans les années 1880-1890.
Pour bénéficier éventuellement du hot chicken.
Exactement.
Caroline, je me demandais où on allait. Ouf! Mais si nous revenons au sujet...
Au sujet. Revenons-y.
Là, on parle de tout ça, c'est durant le gouvernement de qui?
Ben, en fait, dès 1871, à la première législature provinciale, le gouvernement passe une loi, l'Act to Amend the Qualification and Registration of Voters Act, qui enlève le droit de vote aux Chinois, tout simplement, et aux Autochtones aussi, il faut le dire. Là. Mais donc, les Chinois, dès que la Colombie-Britannique devient une province, n'ont plus le droit de vote. Donc, à ce moment-là, ils n'ont plus aucune façon de pouvoir
mettre leur voix... Mais attends, je comprends pas. OK, on les voulait pour le chemin de fer, mais on fait « mais tu peux pas voter ».
Ça, c'est le gouvernement de Colombie-Britannique.
OK, okay.
C'est avant
le chemin de fer est un projet fédéral.
Excusez, ouais. Je suivais plus, là.
Donc ça, c'est la première loi qui est adoptée par la législature provinciale et qui passe et qui est adoptée, là, parce que, en fait, le gouvernement fédéral n'a rien à dire sur le droit de vote provincial. Par contre, après ça, en 1872 et 1874, il y a deux projets de loi pour imposer une taxe per capita aux Chinois qui immigrent. Donc, taxe d'entrée, tout simplement, par le gouvernement de George Wakeham en Colombie-Britannique. Et là, le gouvernement fédéral a comme retourner les lois, il les a pas acceptées parce que ça relevait de compétences fédérales d'immigration.
Ah.
Donc le gouvernement fédéral n'acceptait pas que la Colombie-Britannique légifère là-dedans, dans le fond.
Ça me fait penser à un petit débat actuel. Je sais pas vous, là.
Sur l'immigration?
Oui.
Ouais.
Mais ça, on peut tout de suite passer à d'autres choses.
Mais les compétences, que... ce sera toujours un débat. Comme les gens, ils pourront écouter notre podcast dans 55 ans, puis ils pourront dire « Ça me fait penser au débat des compétences. Ouais. » Tant que le Québec, c'est pas un pays, ça va être un débat.
Fallait que je parle de l'indépendance du mec à un moment.
C'est comme parce qu'on a une liste, il faut parler de Percy Jackson. Ouais. Là, on a c'est parlé ça, on du pays, du Québec. Puis là, il me manque Harry Potter. Je sais pas encore où je vais le mettre.
Et là, maintenant, vous allez tout le temps parler de pâté chinois aussi.
C'est ça.
Peut-être, oui. Ça va devenir un débat.
Finalement, on a de moins en moins de conversations, puis de plus en plus d'insides.
Puis les gens vont faire... Mais c'est quoi la qualité de ce podcast slash balado? Mais qualité pour leur donner tort, on va continuer à parler sérieusement d'un sujet sérieux. Mais nous étions rendus à la législation slash gouvernement provincial, fédéral, slash chicane. Mais ça mène où, tout ça?
Ben, ça va éventuellement mener à la fin de la construction du chemin de fer. Bon. Et donc, vous voyez venir la suite. Le gouvernement fédéral, qui, là, n'a plus besoin des Chinois, déclenche une commission fédérale sur la présence chinoise en 1884. Et les résultats vont proposer fortement... que les Chinois ne sont pas à leur place au pays parce qu'ils ne veulent pas s'y établir, ne veulent pas contribuer, etc.
Mais c'est bien double face.
Absolument.
C'est comme, c'est pire qu'une émission d'occupation double. C'est genre, oh, j'ai besoin de toi. Oh, mais finalement.
Finalement, Stacy est rentrée, puis Stacy est plus belle. Je sais pas c'est qui Stacy dans ce contexte-là, mais c'est ça, mais j'essaie de c'est trouver pas, comme. C'est pas les Chinois, en tout cas. Mais
non, personne n'est rentré pour les remplacer, par contre.
Ouais, bon, fait qu'il n'y a pas de Stacy dans l'histoire.
Il n'y a pas de Stacy.
En 1885, le chemin de fer est complété. En 1885, automatiquement, le gouvernement fédéral adopte la loi, une taxe sur l'immigration chinoise de 50$ par entrée.
50$?
Ce qui est absolument énorme pour l'époque, là. C'est une grosse portion du salaire qu'il faisait dans l'année.
Mais pour mettre en contexte, là, c'est même pas dans la même frame de temps. Là, c'est beaucoup plus tard, mais ma mère, elle a acheté la maison de ma grand-mère pour 600$.
Hein? Ouais, mais c'est normal, c'est à Saint-Michel de Bellechasse.
Oui, oui, mais c'est juste pour mettre en contexte oui, là, que 50$
ouais, pour ce moment-là... C'est du cash, là.
Au début des années 1900, ils vont l'augmenter à 100$ et à 500$ hein? Avec la montée des tensions. Mais ça, je vais y venir tantôt, piastres. Mais c'est énorme. C'est tout à fait énorme.
Mais là, les personnes qui étaient dans le pays devaient aussi, à la passation de cette loi-là, payer ce 50$-là automatiquement. C'est juste pour les nouveaux ouais. résidents.
La loi, en fait... deux petites secondes.
Oh, c'est une question technique peut-être un peu...
Non, mais...
Non, mais ils faisaient tout du porte-à-porte, puis c'était comme « Donne-moi 50$ ».
J'ai plutôt tendance à dire que c'est vraiment une taxe d'entrée.
OK.
Mais si... tu étais au pays et que tu, mettons, retournais en Chine et que tu revenais, là, t'avais besoin de payer la taxe.
Ouais, parce que tu venais pas avec ton petit permis de travail.
Ouais, exactement. Tu sais, il y avait tout le temps des exceptions avec ça. Là. Les étudiants, les marchands étaient exclus de ces lois-là. Là. En fait, les gens qui pouvaient apporter quelque chose là, à l'État ou à la société, là, apporter quelque chose là, avec des gros guillemets, ces gens-là étaient exemptés des lois, en fait. Là.
OK.
Mais ça, c'est pareil pour les lois qui ont été votées aux États-Unis, là, la loi qui excluait l'immigration. Ça l'excluait aussi ces gens-là, là, qui n'étaient pas soumis à cette loi-là. Donc oui, une taxe d'entrée de 50$ qui va rapidement monter à 500$, donc 10 fois plus. C'est quand même...
Puis y a-t-il d'autres choses que ces mesures-là politiques?
Tu as des mesures physiques, mettons, là, comme des gens qui s'en prenaient à des Chinois? Ou des...
Ça... Il y a, mettons, dans la construction du chemin de fer, il y a des événements de Blancs qui ont attaqué des Chinois, qui ont brûlé des campements, qui ont tué des Chinois aussi, quelques-uns.
Puis quand ils tuaient, excuse-moi, mais quand, mettons, il y avait un meurtre fait par un travailleur canadien sur un travailleur chinois, est-ce que c'était les mêmes répercussions au niveau de la loi ou non?
Ben les gens étaient jugés.
Okay, il y avait
des procès. Parfait. Souvent, il n'y avait pas assez de preuves, donc il était...
Mais c'était-tu un peu comme... parce que moi, dans mon séminaire que j'ai fait sur le bois, c'était quand même une exploitation qui était en marge, donc c'était isolé. Donc, ça faisait en sorte que la justice allait souvent, comme justement, pas avoir assez de preuves.
Ouais, exactement. J'aurais tendance à dire que dans la construction du chemin de fer, souvent, t'es pas proche des centres urbains. Là,
fait qu'il devait s'en tirer avec pour beaucoup de choses.
Puis il devait pas
non plus... sûrement, oui.
Il devait pas faire des recherches immenses pour trouver des preuves non plus. Là.
Mais, tu sais, il y a eu des Blancs là, qui ont été arrêtés et inculpés. Là.
OK.
Donc, quand même une certaine justice. Là. En fait, la justice est probablement... la seule instance gouvernementale ou étatique qui a un peu été impartiale dans le cas des Chinois. Ah, jusqu'à un certain point, là, c'était peut-être leur dernier recours qu'il y avait vraiment... Il y a des cas de Chinois qui ont utilisé la justice pour pouvoir avoir gain de cause dans certaines situations. T'sais, ils n'ont pas le droit de vote. Ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Ils ne peuvent pas passer des lois.
Ben, on dirait des femmes.
Mais...
Excusez-moi.
Ben, absolument. Que... Absolument.
D'opprimer à opprimer.
Ouais.
Mais... Pas dans la même mesure, là, mais en tout cas.
Puis, excuse-moi, cette période-là, justement, de construction du chemin de fer m'étonne un peu. Puis là, j'avais une question vraiment pertinente. Oui, les sources à cette époque-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que, tu sais, il parlait peut-être un peu des meurtres, mais est-ce qu'il parlait du quotidien un peu ou du traitement défavorable que les gens... Parce que clairement, il devait avoir une discrimination au quotidien. Est-ce qu'il y a des historiens, historiennes qui ont tenté d'avoir une réponse par rapport à ça?
Probablement. Je dois dire que personnellement, je ne me suis pas concentré sur ces études-là. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé de sources pour ce travail-là. Là. J'avais énormément de littérature, donc c'était suffisant.
Mais les périodiques, sûrement.
Oui, j'imagine qu'il y a... Il doit y avoir des historiens, en fait, qui ont étudié la question sous cet angle-là. Mais j'ai pas vraiment cherché à aller chercher cette information-là parce que c'est pas là que je voulais aller.
Ça va être un à suivre.
Oui, absolument.
Mais je pense qu'il y a un historien à Montréal, soit à l'UQAM ou à l'UDEM, qui travaille justement sur...
Le pâté chinois?
Non. Ah. Peut-être qu'il fait des pâtés chinois chez lui. Je sais pas, je connais pas sa cuisine.
La question, c'est est-ce qu'il met du fromage sur ses patates ou pas?
Sûrement pas. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'il travaille sur les communautés racisées au Québec. Je me souviens plus son nom, mais
on mettra son nom en annexe.
En tout cas, sinon, je vais mettre le nom de la personne à laquelle je pense, mais peut-être que j'ai tort aussi, puis je me souviens mal de son objet d'étude. Mais je voulais aussi poser une question parce que t'en parlais dans ton travail, puis là, on a comme un peu passé par-dessus, mais. Le chemin de fer, il a fait en sorte, comme tu l'as dit tantôt, que finalement, les Chinois ont commencé à s'établir un peu partout dans le pays. Puis, ben là, on est tous au courant, en fait, qu'il y a des quartiers chinois dans beaucoup de villes. Mm-hmm. Donc, c'est aussi à cette période-là qu'il y a eu les débuts des...
Les débuts des Chinatown, en fait. Dès que la ruée vers l'or s'épuise... Il commence à avoir des Chinois qui s'établissent plus en ville parce que là, c'est là que les opportunités de travail se présentent un peu plus. Et là, tu sais, ils vont avoir des endroits, des emplois comme dans la restauration. Ils vont se trouver des stratégies économiques pour pouvoir survivre un peu avec des milieux qui sont moins privilégiés, des Blancs, donc qui peuvent un peu faire leur place là-dedans. Au même moment aussi, là, c'est ça, je voulais y revenir parce qu'on a parlé de la loi de 85 sur la taxe d'immigration. Les tensions ont commencé à monter beaucoup à partir de l'entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération parce que là, le gouvernement essayait de mettre des mesures en place. Mais il y a aussi la situation californienne qui a beaucoup influencé la montée des tensions. En 1867, il y a des grosses émeutes à San Francisco. Et là, le monde au Canada voit que les Chinois, tout s'annonce pour qu'il y ait une loi qui soit passée, celle de 1882, pour les exclure, donc ils se disent, ceux-là, ils vont s'en venir en haut. Ils vont monter au nord. Donc là, non seulement les tensions montaient ici, mais là, on se disait, il y en a plus qui vont arriver. Donc les sentiments deviennent de plus en plus puissants envers les Asiatiques. Et pour en revenir à ta question, en fait, là, les Chinatown, justement, pendant cette période-là, c'est ça, les Chinois sont de plus en plus attirés vers les villes. Et pour prendre l'exemple de Vancouver, qui est l'exemple que j'ai le plus étudié, Vancouver et devient en 1885, que je crois, deux petites secondes, je vais juste vérifier, comme en même temps que la fin de la construction du chemin de fer, devient une ville, parce que c'était pas une ville avant.
OK.
Puis dès que la ville devient une ville, le municipal enlève le vote aussi au municipal, aux Chinois. Et là, il y a d'importantes émeutes dans l'année qui suivent pour exclure tous les Chinois qui sont regroupés dans le coin de Carroll Street, pour les exclure, fait qu'ils vont brûler leur maison et tout. Ils vont les exclure de la ville, finalement. Ils vont devoir les accepter qu'ils reviennent. Mais dès le début de Vancouver, c'est très, très, très anti-asiatique. Fait que, tu sais, les émeutes de 1907 n'étaient pas les premières émeutes qu'il y a eu contre les Chinois.
Puis, on parle d'émeutes, de ressentiment un peu anti-asiatique, pardon. Est-ce qu'il y a un moment fixe où ce mouvement-là va commencer à être organisé, soit aux États-Unis ou au Canada? Comment ça s'est passé? En fait, est-ce que ça s'est passé un regroupement? Puis comment?
Oui, ben absolument. Mais comme je disais au début, c'est le mouvement ouvrier qui a été pas mal la figure de proue de ces mouvements-là, aux États-Unis comme au Canada. D'ailleurs, pendant les émeutes de 1907, il y avait énormément de représentants des mouvements ouvriers aux États-Unis qui étaient à Vancouver, qui ont participé à l'organisation, qui ont fait des discours super virulents, qui ont vraiment là, monopolisé les troupes là, pour aller détruire les quartiers. Donc, il y avait du travail qui se faisait conjointement entre les organisations des deux pays. Et dans les deux pays, c'est vraiment ces mouvements ouvriers-là qui se sont organisés pour même influencer les gouvernements pour que les gouvernements passent des lois. Donc, un bon exemple pour montrer les stratégies que pouvait employer le mouvement ouvrier en Californie, dans les années 1870, il y a la Cigar Makers Association, donc une association de fabricants de cigares, qui a utilisé la stratégie de white label pour identifier leurs produits. Et dans le fond, ils ont utilisé l'argument répandu que les Chinois étaient une menace pour la santé des habitants à cause de leurs mauvaises conditions sanitaires, donc surpeuplement des logements, les maladies qu'ils étaient censés introduire. Là, on leur reprochait souvent d'être aux prises avec plusieurs maladies infectieuses. Et on a utilisé ça pour mettre un signe sur les paquets de cigares qui était un white label pour dire que ces cigares-là provenaient d'industries qui n'employaient pas de travailleurs chinois pour que les gens n'achètent pas des produits qui venaient des Chinois pour faire fermer les business chinoises et faire fermer ceux qui ne voulaient pas accepter de ne pas employer des Chinois. Donc ça, c'est un très bon exemple de stratégie qui pouvait être employée par le mouvement ouvrier pour finalement nuire, c'est ce qu'on peut qualifier de violence économique tout simplement, là, pour vraiment nuire à la liberté de vie en fait de ces gens-là.
Puis tout ça, ça s'inscrivait, c'est ça, dans un mouvement plus large de... De culture de blancheur ou whatever. Là, on en a un peu parlé tantôt. Puis je sais que dans ton travail, justement, tu le définissais, ça, le whiteness. Puis je mets des guillemets, là, vous les voyez pas, mais l'idée de whiteness, tu le définissais peut-être. Puis justement, c'est ça le cœur du mouvement, finalement, anti-asiatique, c'est qu'on se rejoint, nous, qu'on...
Oui, exactement. Puis, je peux peut-être développer un peu là-dessus. Là. En fait, cette idée-là de whiteness s'est développée aux États-Unis, en fait, dans les États nordiques des États-Unis, pendant l'époque de la fin de l'esclavage. Les travailleurs blancs, en fait, se sont rendus compte que les noirs esclaves avaient souvent des emplois très, très, très spécialisés. Ils étaient très, très, très compétents et étaient employés par leur maître pour faire des jobs qui volaient des jobs aux Blancs. Donc, ils se sont dit, on abolit l'esclavage, en fait, ces Noirs-là vont se retrouver comme des travailleurs normaux et là, on va pouvoir les reléguer à des tâches subalternes pour pouvoir avoir ces jobs-là pour nous. Donc, ces gens-là étaient pour l'abolition de l'esclavage, pour pouvoir reléguer les Noirs à une classe inférieure dans la société, en fait. Et cette idée-là de whiteness se développe un peu là, dans le sein du mouvement ouvrier à partir de ça. Donc, quand les Chinois arrivent en Californie, c'est déjà bien implanté dans les esprits et les Chinois vont devenir les grandes victimes de ça. Donc, les Chinois sont automatiquement perçus comme les autres. Donc, les Blancs, peu importe leur origine, la catégorie Blanc est très, très large et elle prend du sens par rapport aux autres qu'on exclut de cette catégorie-là.
Mais la question que j'ai, parce que j'écoute ça, puis je suis fâchée.
C'est fâchant, en effet.
C'est très fâchant. C'est, en fait, je suis outrée en ce moment, j'écoute. Puis pourtant, j'ai lu ton travail, mais ma mémoire de poisson rouge l'a oublié. Fait qu'on dirait que je réapprends tout ce soir.
Mais la... Puis je pense juste pour... Je pense que c'est toujours pire aussi de l'entendre que de le lire, là, parce qu'on est habitué de lire toutes sortes d'affaires, là. Mais quand on en parle, c'est tout le temps plus insultant.
Oui, je fais des faces depuis tantôt, Hugo. J'espère que ça te perturbe pas. Là.
Non. Parfait. C'est les réactions auxquelles je m'attends, là.
Parfait. Merci. Mais la question que j'ai, est-ce que les Asiatiques, les Chinois, répondaient à ces attaques-là, à, comme le white label, à ce mouvement de whiteness-là? Est-ce qu'on a des exemples de ça?
Oui, en fait, j'ai présenté dans mon travail beaucoup l'aspect de quelle violence a été...
utilisée.
Quelle violence les Chinois et les Asiatiques ont subi.
Ouais.
Et j'ai laissé de côté pas mal le côté de l'agentivité un peu de ces Asiatiques-là. Mais ils se sont regroupés en organisations qui faisaient des pressions pour leurs droits, même s'ils n'avaient pas le droit de vote, même s'ils ne pouvaient pas se présenter dans des postes municipaux.
Il y avait-tu comme des gangs, comme en mettant des Peaky Blinders, mais de Vancouver chinois?
Probablement.
Ça serait quand même cool.
J'ai pas vraiment de réponse spécifique à te donner là-dessus. Mais oui, fait. Puis comme je disais aussi, il y avait des marchands chinois qui étaient au pays, qui étaient quand même assez influents dans leur milieu. Parce qu'ils pouvaient aller mettre certaines pressions pour faire respecter des fois le droit de certains de leurs compatriotes. Mais il y avait aussi des organisations comme la Chinese Consolidated Organization, je crois, à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui s'organisaient pour se donner des ressources, pour se donner des institutions pour l'éducation, entre autres, là, les Chinois ont été ségrégés, donc il fallait qu'ils fassent leur propre école. Il y a eu des tentatives de loi de les exclure totalement, qui ont été retournées. En tout cas, ça, c'est un sujet qui déborde beaucoup là, le cadre de ce que je voulais dire, puis que j'ai étudié en surface, là, donc je
vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est tellement pertinent. On dirait qu'on en entend, puis on a comme des questions qui viennent, puis tu sais, je me pose ces questions-là, puis je me demande si c'est pas... peut-être un peu la culture blanche, justement, qui nous a imposé cette imagerie-là. Tu sais, on parlait juste du vidéo hyper raciste tantôt, là, qui a été faite sur les dendopium. Tu sais, les dendopium. Puis tout de suite, moi, j'étais comme, est-ce qu'ils étaient perçus comme un groupe peut-être plus criminalisé à cause de ça?
Oh, absolument. Absolument. Puis là, je vais y revenir tantôt.
Okay.
Mais ça fait partie de tout cet imaginaire-là qui a été créé autour de stéréotypes vrai ou faux qu'on leur a associé. Puis ces stéréotypes-là ont été par la suite utilisés pour justifier des lois discriminatoires. Mais ça, je vais y revenir tantôt. Là, j'aimerais peut-être refaire juste comme continuer le...
Alors, on va arrêter de te couper.
Non, il n'y a pas de problème, mais juste un peu continuer là, l'évolution de la période, de la présence asiatique. Puis après, on va peut-être rentrer dans des questions un petit peu plus spécifiques. Donc oui, voilà, après, il y a la loi en 85 qui est passée par le gouvernement fédéral. Et, une petite seconde. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, les sentiments asiatiques se propagent de plus en plus, et à travers le pays aussi, là, pas seulement en Colombie-Britannique, mais en Colombie-Britannique, c'est d'autant plus évident que ça se propage avec l'arrivée des Chinois dans les villes, avec la formation des Chinatown, ça se propage à toutes les couches de la population à ce moment-là. Là, il y a autre chose qui va faire monter les tensions aussi, c'est l'arrivée de deux autres groupes d'Asiatiques, les Japonais et les ressortissants indiens. Mais ce qui est particulier avec l'arrivée de ces gens-là, c'est que du côté des Japonais, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, a un traité qu'elle signe avec le Japon qui donne un peu là, le traitement égal des citoyens. Alors, elle ne peut pas permettre qu'on légifère contre des gens, des Japonais, puisqu'elle a signé un traité qui donne ce traitement égal-là. Donc, d'un côté, il y a ça, et bon, comme le Canada fait partie du Commonwealth, du Dominion, est un Dominion britannique, ben, le Canada non plus ne peut pas légiférer là-dessus. Et tandis que les ressortissants indiens sont des sujets britanniques, donc là, c'est absolument certain que le gouvernement fédéral ne pouvait pas non plus légiférer là-dessus. Mais la présence de ces gens-là qui commencent à augmenter au début du 20e siècle, va d'autant faire augmenter les tensions qui vont mener éventuellement aux émeutes de Vancouver. Donc, c'est l'arrivée de ces nouveaux Asiatiques-là qui va vraiment faire en sorte que le mouvement devient de plus en plus d'ampleur aux États-Unis comme au Canada et qui va mener à ces séries d'émeutes-là dont j'ai parlé en 1973.
C'est ça. Puis ça déborde finalement d'un sentiment anti-chinois pour devenir vraiment un sentiment anti-asiatique.
Oui, exactement.
Tout confondu. Puis surtout, j'imagine que ça devait aussi être intense justement contre les Japonais puis les Indiens, ben les ressortissants de l'Inde, parce que ils pouvaient, comme les Blancs, ils pouvaient rien faire. Là.
Ben, ils pouvaient rien faire de façon légale, mais ouais. Tout le reste pouvait.
Tout le reste fait. Était fair game, en guillemets. Ouais. Ouais, super.
Là, tu dis que ça devient comme un peu plus, plus les Chinois, mais contre les Asiatiques en général, mais il y avait quand même certaines distinctions qui étaient faites là, entre les Japonais. Les Japonais étaient vus supérieurs aux Chinois à cause que leur pays, premièrement, là, ils gagnent la guerre contre la Russie en 1905. Mm. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment un peu l'augmentation du péril jaune, là, cette peur-là que les Asiatiques prennent le contrôle du monde et viennent envahir les pays occidentaux. Avec la victoire du Japon contre la Russie, ces sentiments-là vont vraiment augmenter. Et puis là, c'est ça coïncide directement dans la période qui précède là, les émeutes. Donc oui, ils étaient perçus tous comme des Asiatiques au final et mis dans le même chapeau, mais il y avait
dans le même bateau.
Dans le même bateau plutôt.
Ben ils peuvent être dans le même chapeau aussi.
Dans le même chapeau, dans le même bateau.
J'adore.
Mais oui, c'est ça. Mais il y avait quand même là, certaines distinctions qui étaient faites là, de l'un par rapport à l'autre. Là.
Au sein de la communauté. Ouais. Okay. Puis, justement, ben, on en a un petit peu, on l'a un petit peu abordé. Puis là, avant la fin de ce premier épisode-là, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour là-dessus. Puis, on pourra conclure la fin de ton travail dans un prochain épisode parce que je vois que l'heure tourne.
Le temps file
à toute allure. Mais on a parlé déjà des stéréotypes, puis on vient tout juste d'en reparler, finalement. Parce qu'au final, si on pense que les Japonais sont mieux que les Chinois pour une raison ou une autre, ben ça veut dire que, finalement, il y a des stéréotypes pour et contre les Japonais, pour et contre les Chinois. Et avant qu'on aille dans les spécificités de ces stéréotypes-là qu'avaient les Blancs, c'est quoi un stéréotype? Si on a besoin de le définir comme... Qu'est-ce qu'on entend par un stéréotype?
Oui, ben je vais en fait citer un passage de mon travail, si vous me permettez, qui va très bien
c'est tout le temps drôle de dire « je vais m'auto-citer ».
Ouais, mais
moi, j'aime ça dire ça.
Il y a des citations dans cette partie-là, donc je vais aussi
citer... Ah, c'est pas juste tes sages paroles à toi.
Non, pas du tout, en fait.
C'est correct.
Donc, Peter Ward définit les stéréotypes comme des... croyances exagérées qui sont associées à une certaine catégorie, qu'elle soit raciale, religieuse ou une autre catégorie, et qui est utilisée de façon généralisée pour tous les membres de cette dite communauté, de ce dit groupe. Bon, dans leur forme négative, qui est souvent le cas pour les stéréotypes, bon, ces stéréotypes-là se nourrissent de peur et d'incompréhension, souvent, et sont utilisés par le groupe majoritaire pour justifier la discrimination qu'elle soit individuelle ou institutionnelle, du groupe qui est minoritaire. Bon, ben, les stéréotypes, comme je l'ai dit, des fois découlent de soupçons de vérité. Là, ça part tout le temps d'un petit fond qui est vrai quelque part, mais... Oui, Rose, t'as quelque chose à dire?
Non, mais j'allais dire, c'est un peu comme... Ben, c'est un peu comme des théories du complot. T'sais, ça commence tout le temps avec une petite affaire qui est... Mais qui est un peu vrai, comme quelque chose que c'est une généralité. Là, comme
la puce qu'on a à cause du vaccin.
Ben le début, ça serait plus tout le monde doit se faire vacciner.
Ouais.
Et là, la théorie du complot part de ce constat qui est très général et développe dans quelque chose qui a, ben, selon moi, aucun sens. T'sais, qu'on va se faire mettre une puce alors qu'on traîne tous un téléphone. Bref, ça, c'est une autre discussion. Mais c'est un peu ça, tu sais. Je pense que tous les démagogues font un peu ça, justement, là, de partir d'un constat qui est très général, puis un peu vrai. Puis là, après ça, rapidement, ça déboule, puis c'est des faussetés, puis c'est des exagérations.
Comme une vérité
avec total, un grand V. Ouais.
Total.
Ouais.
Donc, il faut tout le temps garder en tête qu'un stéréotype, c'est une interprétation des pratiques culturelles d'un peuple. Donc, si on parle dans le cas des Chinois, mettons. Et
fait que là, tu sais, l'exemple.
Ce n'est pas des descriptions précises et véridiques. C'est vraiment des interprétations de pratiques qui sont généralisées à toute la population.
Excuse-moi, j'étais tellement enthousiaste pour mon commentaire que je t'ai coupé.
Mais, y a pas de
mais
trouble.
Je vais faire ça tranquillement maintenant. Est-ce qu'on pourrait associer, par exemple, là, j'aime pas ce mot-là, mais entre guillemets, les chinoiseries? Tu sais, je sais que c'était bien la mode, admettons, pour la porcelaine, surtout victorienne, d'avoir des motifs slash chinois. Ou sinon, la sexualisation des femmes chinoises, asiatiques. Est-ce qu'on peut voir un écho, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois, toi, ou perçois ces stéréotypes-là qui étaient plus, finalement, je pense, dans les communautés slash blanches?
Oui, bien, ce que tu mentionnes à propos des femmes, la sexualisation des femmes, c'est justement un de ces stéréotypes-là okay. qui est associé aux Chinois. Là, les femmes étaient toutes perçues comme des prostituées.
Oui.
Littéralement. Donc, une femme chinoise, elle était prostituée.
Ah.
Donc, voilà.
Mais comme pourquoi?
Ben, j'imagine que c'est un stéréotype, là. Fait que peut-être qu'ils ont déjà vu... Là, je suis vraiment désolée. Là, ça... Les geishas, est-ce qu'ils sont chinoises ou ils sont japonaises?
Ils sont japonaises. Mais oh non, mais j'ai
peut-être... Je le sentais, mais... Bref, ce que je voulais dire par rapport à ça, je savais que j'allais me tromper.
C'est correct.
Si t'es un blanc, hein, dans ce temps-là, puis t'as vu une image, une fois, d'une petite madame asiatique, puis tu la trouvais super cute, puis elle était en bobette... Pourquoi pas généraliser et dire que c'est toutes des petites madames en bobette ou tout nues?
Ah ben une chance qu'ils n'avaient pas vu le
Kama Sutra. Mais est-ce que l'ont-tu vu le Kama Sutra?
Probablement, en fait. Là.
Ouais,
non, mais c'est une question légitime.
Ce que Rose mentionne, c'est absolument pertinent parce que l'image que les Nord-Américains avaient des Chinois était déjà implanté dans les mentalités avant que les Chinois arrivent, là, parce qu'il y a des diplomates, des marchands, des missionnaires qui sont allés en Chine dans une période où la Chine ne voulait pas les accueillir. Et ils ont donné des représentations absolument affreuses de ces Chinois-là et du peuple chinois. Donc, cette mentalité-là était déjà dans les mentalités générales en Amérique du Nord. Donc, une fois que ces Chinois-là deviennent des êtres non désirables, non désirés, il est très, très, très facile de leur associer toutes ces caractéristiques-là et de les prendre pour du cash, dans le fond.
Puis est-ce que ces stéréotypes-là ont évolué? Est-ce qu'ils se sont empirés quand les Chinois sont restés peut-être plus fréquemment ou en plus grand nombre au Canada?
Oui, bien, au début, comme j'ai parlé tantôt, là, il y avait la question du sojourner, séjournant ou du voyageur temporaire qui était vraiment un peu... un des stéréotypes les plus mis de l'avant, il y avait le fait qu'il ne contribuait pas économiquement et tout. Là. Donc, tout ce qui venait avec ça, c'était pas mal l'affaire la plus utilisée dans les arguments contre les Chinois. Puis le reste était vu un peu comme de l'exotisme. Donc, on trouvait ça quand même curieux. Là. C'est pas des choses qui dérangeaient tant que ça, mais c'était plus comme... ces gens
toutes
qui
vos femmes sont des prostituées, c'est cool.
Ces gens qui viennent d'ailleurs et qui ont des coutumes différentes.
Ah, okay.
Mais... C'est ça, dès que la présence devient plus visible dans les villes, c'est là que tous les autres stéréotypes que j'avais développés au prochain épisode sont devenus plus utilisés.
Wow, ben merci beaucoup pour cet bel épisode. On a parlé de Percy Jackson, de pâté chinois. Est-ce que vous mettez de la sauce ou pas? Non, du pain ou pas dans votre...
Hot chicken.
Et la mayonnaise, faut pas oublier la mayonnaise.
Ouais, la mayonnaise, mais si vous mettez pas de pain, c'est pas un hot chicken.
Ben, d'après Hugo, c'est un hot chicken. Fait qu'on laisse le débat ouvert. Mais surtout, on en a beaucoup appris plus sur les communautés chinoises et les communautés asiatiques qui se sont installées en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Donc, de Rose et moi, on te remercie pour cet premier épisode et puis on vous retrouve pour une seconde. Dans quelques temps, peu importe si vous l'écoutez tout de suite après parce que vous voulez immédiatement savoir qu'est-ce qui se passe dans la partie 2.
Mais vous ne pourrez pas l'écouter immédiatement après. Il va sortir à 2 semaines d'intervalle, mais...
Non, mais tu sais, 14 jours, c'est rien, là.
C'est vrai, c'est immédiatement après.
Immédiatement. Donc, là-dessus, on vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une bonne matinée ou une bonne nuit. Ah, oh, c'était un peu louche!
Bye, la gang!
on an eastbound train toward the valley to the Utah plain. Some came from riches, others came as slaves. Too many of